Inventeur, on avait vu un peuple nouveau, être une nouvelle création, une nouvelle identité, être roi et sacrificateur. Et donc on était parti d'un texte de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, des versets très connus, mais je les relis. 2 Corinthiens 5, et je vais vous lire le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc on est en train de voir un petit peu le contenu de cette réconciliation. On avait vu tout cela au travers de la vie d'Abraham, et puis que tout au long de sa vie, Dieu l'avait accompagné au point de changer son identité, changer son nom. Et donc, il a avancé comme ça pendant des années. Il n'a pas toujours fait des grandes expériences, il y a aussi des jours de quotidien, mais il y a eu aussi des temps où Dieu est intervenu dans sa vie. Et il a lancé dans une alliance nouvelle avec lui, une alliance qui était très très riche, tellement riche qu'il est devenu aujourd'hui le père de la foi. Et pour nous, c'est quelqu'un qui est très très important. On a vu que pour l'apôtre Paul, eh bien, la vie nouvelle était un petit peu la même chose, c'est un petit peu le même témoignage, il a vécu les mêmes étapes aussi que... qu'Abraham. On a vu aussi un petit peu au travers de Jacob, ce changement de nom, c'est aussi un homme que Dieu a percuté. Et de Jacob, il est devenu Israël. J'aimerais poursuivre ce matin, voyons avec vous, qu'est-ce qui a encore changé dans nos vies et qu'est-ce qui fait qu'on est un peuple nouveau ? Eh bien, nous sommes un peuple de rois, l'Écriture dit, des prêtres et des sacrificateurs. Et pour cela, on prend appui sur un texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 9 à 10. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il y a là aussi une concordance entre les textes de l'apôtre Paul et puis cette recréation, ces choses nouvelles que nous annonce l'apôtre Pierre. Vous, au contraire, comment est-ce qu'on se sent ce matin quand on lit des textes comme cela? Est-ce qu'on sent qu'on est fait partie de... Voilà, qu'on est dans une élection, quelque chose de différent des gens ordinaires? Sacerdoce royal, c'est peut-être plus difficile à saisir, à comprendre, une nation sainte, là je pense à... Est-ce qu'on a l'impression, est-ce qu'on sent qu'on fait partie d'une nation sainte, que le peuple de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, un peuple acquis, Dieu nous a attirés à lui, nous sommes une acquisition de Dieu. Autrefois on n'était pas grand-chose, l'Écriture dit on n'était pas un peuple. Mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Nous n'avions pas obtenu miséricorde. Maintenant, nous avons obtenu miséricorde. Est-ce que l'on se sent assis, à l'aise dans cette miséricorde? Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi, par la réconciliation, par la miséricorde. Nous avons un nouveau statut par la nouvelle naissance. Patricia nous a parlé un petit peu ce matin, comment elle l'a vécu, une naissance d'en haut. Et Dieu nous adresse une vocation nouvelle, une vocation céleste en Jésus-Christ. J'ai toujours beaucoup aimé toutes ces notions de vocation. Ça donne un autre sens, un nouveau sens à la vie. On remonte un petit peu dans l'épître, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 3 et 5. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Cela est dit dans l'Écriture. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confus. Est-ce que nous avons goûté que le Seigneur est bon? Goûter, ça nous parle de repas, enfin de quelque chose, c'est pour moi quelque chose d'assez concret. Est-ce que la rencontre avec Dieu est dans nos vies quelque chose de concret? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a un avant, un après? Est-ce que ce matin, on se considère comme une pierre vivante, vous-même comme des pierres vivantes? Construisez-vous, construisez votre vie. Ensemble, construisez une maison spirituelle. Je pense qu'une maison spirituelle, on peut être amené les uns les autres un peu à comprendre ce que c'est. Un saint sacerdoce. Tout à l'heure, il était parlé de sacerdoce royal. Là, c'est peut-être plus difficile. On va prendre le temps de le décliner pour voir un petit peu le contenu de ce sacerdoce, une nouvelle communauté de prêtres, de sacrificateurs. Fonction sacerdotale a évolué dans le temps. Au temps des patriarches, eh bien, c'est eux qui construisaient un autel qui offrait des sacrifices. Si vous lisez l'histoire d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, etc., tous les lieux où ils sont allés, ils ont construit des autels. Et en tant que père, chef de famille, c'est eux qui ont offert les sacrifices. Et c'était eux qui étaient sacrificateurs pour leur famille. À la sortie d'Égypte, à la Pâque, là aussi, tous les pères de famille ont eu à offrir un agneau pascal en sacrifice pour pouvoir mettre le sang sur les linteaux de chaque maison. Père de famille, il a été sacrificateur lors de la sortie d'Égypte. Il a pris un agneau d'un an, il a pris le sang et il l'a mis comme protection sur la maison. Le jugement est passé. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts, mais pas sur la descendance d'Israël. Le projet de Dieu, quand on le poursuit avec Moïse, c'était de faire du peuple d'Israël un peuple de sacrificateurs. On peut lire ça ensemble dans Exode, au chapitre 19, les versets 5 à 6. Exode 19, 5. « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Moïse va appeler les anciens du peuple. Il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait dit. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Peut-être que vous ne vous rappeliez plus de ces paroles. Dieu voulait que tout le peuple qui est sorti d'Égypte soit un royaume, un peuple de rois et de sacrificateurs. Et tout le peuple qui avait bien entendu a dit, « Ok, nous le ferons, nous le serons. » C'est super comme projet. Est-ce que ça s'est réalisé comme cela? Pas tout à fait. Quand Moïse a reçu les tables de la loi, il a dit que le peuple a voulu se divertir, aller vers les idoles. Ça a un petit peu énervé Moïse, qui a cassé les tables en descendant. Il a dû tout reprendre. Et puis, eh bien, ce royaume de rois, de prêtres, de sacrificateurs a évolué finalement. Voilà, tu as dit à Moïse, eh bien, tu vas sélectionner ton frère Aaron, la tribu d'où tu viens, Lévi. Et puis, on a fait une professionnalisation de ce royaume de prêtres et de sacrificateurs. Tout a été centré plus tard autour du culte, autour du temple. Et ce projet extraordinaire, il a été en attente. À la nouvelle alliance, Dieu essaye de remettre ce projet sur les rails. C'est pourquoi j'ai lu ces deux textes. Dieu veut que nous soyons un peuple, un royaume, des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc nous sommes, chaque croyant, appelé à vivre ce sacerdoce royal. Ça nous est rappelé dans l'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 5. Allez, je voulais partir du verset 4. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, premier-né des morts, prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Nous avons le privilège d'être, de faire partie d'un royaume des rois et des sacrificateurs. Est-ce que c'est des notions qu'on comprend, qu'on maîtrise, dans lesquelles on est rentré, ou est-ce que c'est encore quelque chose d'assez mystérieux, un petit peu éloigné? Ça nous est répété encore dans l'Apocalypse au chapitre 5. Quand il y a plusieurs répétitions d'une même notion, c'est que c'est quelque chose d'important. Apocalypse 5, les versets 8 à 10. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Est-ce que nous avons conscience que nous sommes entrés dans un règne qui est différent par notre adhésion, par notre foi, par notre rencontre avec le Dieu vivant? Christ, l'agneau, a été racheté. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Même de la région lorientaise, même à Lanester, à Kéva. Quand on lit ce texte, nous en faisons partie. En tous les cas, je veux en faire partie. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Dieu nous adresse, il dit, une sainte vocation dans un sens à notre vie, et nous entrons là dans quelque chose de nouveau. Nous recevons, nous partageons, nous participons de la part du Christ, dès notre nouvelle naissance, à quelque chose de nouveau. J'aimerais partager avec vous un texte de Hébreux, au chapitre 10, les versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. En tant que roi et sacrificateur, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire 24 heures sur 24. C'est comme si vous aviez le numéro de M. Emmanuel Macron, président de la France, ou de M. Poutine, ou de M. Vous pouvez choisir n'importe qui, quelqu'un de cœur, mais c'est comme si vous aviez son téléphone personnel et 24 heures sur 24, vous pouvez lui envoyer un SMS, un WhatsApp. On va essayer de moderniser le propos. Nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Premier pas de la rencontre avec Dieu. Seigneur, merci de couvrir ma vie par ton sang. Non pas à cause de moi, de mes propres efforts, de ma sainteté, mais simplement par ma foi, ma confiance dans le sang de Jésus. Une libre entrée dans le sanctuaire 24 heures sur 24. Une route nouvelle et vivante, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que cette route nous est habituelle, connue? Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Si on veut savoir qu'est-ce que c'est que d'être sacrificateur, il faut déjà avoir l'autorité, le courage, la force de s'approcher de celui qui en est le souverain sacrificateur. Là, on a un modèle, une image, quelque chose qui peut nous aider à le développer. Je prends un autre texte dans les Éphésiens, au chapitre 2, les versets 17 à 18. Éphésiens 2, 17 à 18. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Il n'y a pas de différence de révélation entre l'auteur des Hébreux, l'auteur des Éphésiens, je ne sais pas si c'est le même. Il y a toujours la petite énigme sur qui a écrit Hébreu, mais on voit qu'il y a concordance de révélation et d'inspiration. Par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Tout le monde a la même possibilité, le même droit devant Dieu. Il n'y a pas que ceux qui sont dans le service, dans le ministère, qui ont pleinement accès à Dieu. Nous avons tous la même égalité de traitement, la même égalité dans le libre accès au Dieu vivant. Nous avons un prêtre éminent, un souverain sacrificateur. La traduction n'est jamais très très facile. Quel sera le contenu d'être sacrificateur aujourd'hui? Un sacrificateur était là pour faire une médiation, pour offrir quelque chose à Dieu. On prend un texte dans Romains 12, texte archi connu, mais j'aimerais le replacer dans la ligne de ce rôle de sacrificateur. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour être transformé, pour vivre des temps de renouvellement d'intelligence, pour discerner la volonté de Dieu, il faut déjà s'offrir à Dieu. Souvent, les gens ont l'impression que tout ce qui est spirituel, c'est un petit peu comme ça, un peu vague, un peu éthéré, un petit peu pour des gens bizarres. 40 ans, maintenant, j'ai découvert que Dieu, le Seigneur est toujours concret. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que chaque jour que Dieu fait, quand je me lève, on dit pour les hommes quand ils se rasent, mais pour les dames, quand elles font leur toilette, est-ce que je peux avancer à pied et dire « Seigneur, encore aujourd'hui, je t'offre mon corps en sacrifice vivant. » Quel engagement. Peut-être pour, voilà, parfois notre réaction, ce serait de dire « Ah Seigneur, je t'ai offert mon corps il y a très très longtemps. » Et c'était tellement extraordinaire. Mais ce maintenant, est-ce que je suis prêt encore à faire ce pas de foi et à offrir mon corps au Christ comme un sacrifice vivant? C'est-à-dire renoncer aux droits que j'ai sur ma propre vie. Continuer de renoncer aux droits que j'ai sur ma propre vie. C'était le boulot du sacrificateur. Régulièrement, il était au service de Dieu. Pour les Israélites, il renonçait à lui-même. Il était au service de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que l'on peut offrir à Dieu encore? Eh bien, on a une piste dans Hébreux au chapitre 13, verset 15. Par lui, c'est-à-dire par le Christ Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Est-ce que chaque jour que Dieu fait, j'ai envie de confesser, de vivre des temps de louange? J'ai passé ce morceau tout à l'heure, on l'a réécouté, c'était en début de semaine dans la voiture, et puis voilà, moi j'ai été touché par ce chant. Je pourrais l'écouter des dizaines de fois. Dans ta présence, in your presence. Dans ta présence, c'est tellement extraordinaire de vivre dans la présence de Jésus. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent. Ça aussi, c'est concret. Comment est-ce que chaque jour que Dieu fait, voilà, je peux dire, voilà, Seigneur, je viens à toi. Je suis à toi, je t'adore, je te loue. Voilà, c'est toute cette communion que nous pouvons avoir les uns les autres. C'est vital et essentiel. Le verset suivant nous offre encore une autre piste. N'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je ne sais pas si vous y aviez déjà pensé. Être libéral dans le don de ce que l'on peut donner aux autres, à la société, à Dieu. Dieu prend plaisir à des sacrifices comme cela. Bienfaisance et libéralité. Je crois que c'était en début de semaine, au milieu de semaine. Avec Catherine, on fait partie de la société de bienfaisance helvétique. C'est la caisse de secours des Suisses. Alors tous les ans, on me rappelle qu'il ne faut pas que j'oublie d'envoyer un petit quelque chose à la S, société SBHS, qui est à Paris. Mais parfois, là aussi, est-ce que l'on peut apprendre à la libéralité. Je ne sais pas aujourd'hui tout est comptable. Est-ce que parfois le Seigneur, l'Esprit Saint peut souffler dans ma vie puis me dire, voilà, mais ça, est-ce que tu peux aller juste un pas plus loin dans la libéralité, apprendre à se détacher des choses matérielles? Je vais vous dire un secret. Un sacrifice, c'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est pas un cadeau qu'on reçoit. C'est quelque chose qu'on donne. Alors, est-ce que le Seigneur tire d'un côté, puis nous, on tire de l'autre? C'est à moi, ça m'appartient. Alors, est-ce qu'il faut que le Seigneur donne une tape et dit « lâche » ? Je ne pense pas qu'il agisse comme ça, mais tout au long de notre vie, comment est-ce qu'il va pouvoir nous donner l'impulsion pour qu'on apprenne à lâcher, à abandonner? Ce n'est pas toujours forcément facile. Et puis, il y a aussi toute une gradation, une profondeur de sacrifice. Il y en a sûrement qui sont plus ou moins faciles. Mais il y en a très certainement qui sont difficiles, douloureux. Il y a 15 jours, on a lu ce texte. « Prends ton fils, ton unique, et puis va. » Le Père nous a lâché ce qu'il avait de plus précieux. Il a été élevé sur la croix. Son sang a coulé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu de moi sans me secourir? Parfois même, d'offrir à Dieu un sacrifice de louange dans l'assemblée, c'est difficile. Ce n'est pas notre culture, on est breton. On a du mal à exprimer ce que Dieu nous a donné, c'est difficile. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessant. Parfois, c'est difficile de témoigner. Là aussi, il y a toutes sortes de sacrifices. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Est-ce qu'on a envie de faire plaisir à Dieu? Est-ce qu'on a envie de lâcher parfois, de donner au-delà de ce que l'on pensait? Être sacrificateur, c'est offrir à l'Église, au monde, son service, sa disponibilité, ses dons spirituels, son ministère, son service, son diaconat. On partage un texte dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 6, 13. Je vais essayer d'étayer chaque sacrifice que l'on doit faire sur un texte de l'Écriture. Romains 6, 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le sacrifice que l'on donne à Dieu a un sens. Sans Dieu, nous sommes morts. En Christ, nous sommes morts. Nous pouvons nous identifier à la mort de Jésus sur la croix. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Chaque jour que Dieu fait, pouvoir réaliser que la vie éternelle est dans nos corps, pas que dans notre esprit, dans nos corps, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des cheveux. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ne plus disposer posé seulement pour soi-même de son corps. Mais pouvoir dire à Dieu aussi, voilà, quelle direction, quel contenu, qu'est-ce que tu veux mettre dans ma vie ? Dispensateur des diverses grâces de Dieu. Là, j'ai pris un texte dans 1 Pierre, au chapitre 4, et le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà. C'est quoi être sacrificateur pour Dieu, notre Père ? C'est de mettre à la disposition de chacun les dons que nous avons reçus. Et nous avons tous reçu des dons de Dieu. Tous ceux qui, par fausse humilité, disent « Oh, mais moi, je ne suis pas grand-chose, j'ai pas grand-chose. » Un jour, Jésus voulait faire manger toute la foule, puis il dit aux disciples « Allez, on mange. » Puis on dit « Mais Seigneur, on n'a rien. » Ils ont juste trouvé quelques bouts de pain, quelques poissons. Donnez-leur vous-même à manger. Moi, j'étais jeune chrétien, on était dans une église de maison, on était 7. Et un jour, on a reçu cette parole. Qui on est ? On n'est pas grand-chose. On n'est qu'une église de maison. Moi, je suis tout jeune dans la foi chrétienne. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-vous vous-même à Dieu. Construisez, bâtissez, édifiez-vous. Faites quelque chose de vos vies. Donnez-la à Dieu. Une dernière chose, nous pouvons être aussi des témoins et nous pouvons entrer dans un ministère de réconciliation. Pas seulement les prédicateurs, les évangélistes, les ministères dans l'Église, mais chacun d'entre nous. Et je voulais choisir encore un texte dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Très beau chapitre, ce chapitre 5 de Corinthiens. Les versets 18 à 20. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça aussi, c'est un des aspects de ce ministère de la réconciliation. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Et nous nous exhortons nous-mêmes et nous exhortons les autres, soyez réconciliés avec Dieu. Et le texte de Paul est très fort, nous vous en supplions. Quelque chose qui vient des entrailles, du plus profond de l'être. L'Écriture dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins auxquels nous pouvons rajouter nos noms. Dieu redonne un sens à nos vies, il met plein de choses nouvelles dans nos vies. Nous faisons partie d'une lignée spirituelle. Donc on a vu qu'on était quelque chose de nouveau, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes édifiés pour être un peuple de sacrificateurs, et je n'ai pas parlé de la royauté. Le texte de l'Apocalypse disait tout à l'heure, et ils régneront sur la terre. Donc il y aura un troisième volet où on parlera, mais comment est-ce que l'on peut accueillir et proclamer les décrets de Dieu qui font de nous aussi cette chose nouvelle. Nous entrons dans la royauté ou dans le règne de Dieu Et Dieu, voilà, continue de faire avec nous des choses extraordinaires. J'ai mis quelques années à entrer dans ce texte. Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Sacrificateurs, bon, ça allait encore à peu près. Mais comment est-ce que je peux sentir que dans mon cœur, il y a quelque chose, une royauté, que Dieu redressait une vie de résurrection qui fait que, voilà, on peut se mettre debout et puis on peut appréhender la vie autrement. On veut prier ensemble. Père Céleste, merci pour la grâce que tu nous fais à chacun de t'avoir découvert au travers de Jésus. Merci de révéler encore aujourd'hui, maintenant, cette figure de ton Fils, cette œuvre, cette personne de ton Fils, le Christ Jésus. Viens ouvrir nos cœurs, nos esprits, et fais-nous entrer dans cet héritage, dans cette filiation, mais aussi dans cette nouvelle vocation de roi et de sacrificateur. Aide-nous à réellement te donner en sacrifice nos vies et à pouvoir avancer dans la vie avec cette révélation. Merci de ce que tu veux construire dans nos vies, pas seulement en solitaire, mais aussi en assemblée, en équipe, ensemble. Merci pour cette révélation du peuple de Dieu. Merci de la faire naître, de l'élargir, de la faire grandir, que chacun d'entre nous puissions la vivre pleinement. Amen.